en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Canal Académie a l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Simone Veil. Madame Veil, bonjour.
Bonjour.
Ce sont vos premiers mois à l'Académie. Le 9 novembre dernier, invité par Maurice Druon et François Jacob, vous avez donc présenté votre candidature à l'Académie française au fauteuil de Pierre Messmer. Et le 20 novembre 2008, vous avez été élu au premier tour de scrutin par 22 voix sur 29 et vous occupez désormais le 13e fauteuil à l'Académie française en remplacement de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, décédé en août 2007. Alors, donc, vous retrouvez ainsi sous la coupole. Quel sentiment, quelle réaction au fond de vous, cette élection ?
Je dois dire que c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. J'ai eu une vie très, très diversifiée dans ces occupations. Ça s'est toujours un peu trouvé comme ça. Mais en même temps, c'était dans une certaine ligne qui est restée toujours sous-jacente, c'est-à-dire le fait que j'étais magistrat. J'avais choisi cette carrière parce que j'avais très envie d'être avocate depuis que j'étais jeune. Et quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire du droit et que je voulais être avocate, il m'a dit « il n'en est pas question ». Parce qu'il trouvait qu'on fréquentait des milieux plus ou moins bien. Maintenant, nous avons deux fils avocats. Alors, il est servi, mais pour les garçons, ce n'est pas pareil. Alors, j'ai dit « bon, ben, tu ne veux pas, ça ne fait rien ». Moi, au fond, ce qui m'intéressait beaucoup, parce qu'il y avait encore très peu de temps qui avait passé depuis mon retour de déportation, c'est tout ce qui concernait les gens détenus, même si c'était des gens qui étaient détenus en prison pour des faits qui n'avaient rien à voir avec ce qu'avait été la déportation. Les prisons m'interrogeaient.
Madame Veil, vous avez été nommée ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de 1974 à 1979 par le Premier ministre Jacques Chirac, à l'époque dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez été ensuite la première femme présidente du Parlement européen élu au suffrage universel de 1979 à 1982. Ensuite, ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, ça a été de 1993 à 1995, et 3 ans plus tard, vous faites partie du Conseil constitutionnel dans les années de 1998 à 2007. En cette même année 2007, vous avez fait paraître aux éditions Stock un livre intitulé « Une vie ». Grand succès de librairie, cet ouvrage s'est vendu à 600 000 exemplaires et je signale que votre livre « Une vie » sort en cette nouvelle rentrée littéraire en livre de poche. « Maupassant que j'aime, écrivez-vous, ne m'en voudra pas d'avoir emprunté le titre d'un de ses plus jolis romans pour décrire un parcours qui ne doit rien à la fiction. » Nous allons retrouver dans un instant Simone Veil devant les micros de Canal Académie. Simone Veil qui, avec ses mots, ses émotions, confie dans ce livre une vie et devant les micros de Canal Académie, une jeunesse témoin de la souffrance, de la barbarie, de l'indicible de la déportation. Toutefois, dans le souci de ne pas faire intervenir directement Madame Veil dans l'évocation des pages les plus douloureuses de ce livre et donc de sa vie, plusieurs lectures retraçant ces événements vont vous être proposées. C'est ainsi que nous apprenons. Tout ce petit monde était foncièrement républicain et laïque du côté de ma mère comme de celui de mon père. Très simplement, nous étions juifs et laïques et n'en faisions pas mystère. J'ignorais tout de la religion, écrit Simone Veil. Au début de l'année 1944, la Gestapo redoublait les contrôles et la traque. La jeune Simone Jacob passe les épreuves du bac à Nice, sa ville natale. Elle a 16 ans. Examen réussi. J'avais rendez-vous avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque, soudain, deux Allemands en civil nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. L'horreur commence. Simone, sa mère, sa sœur Milou, son frère Jean sont arrêtés. Son père le sera aussi quelques jours plus tard. Sa sœur Denise, qui avait rejoint la résistance, sera arrêtée à son tour et déportée à Ravensbrück. Simone apprendra plus tard que son père et son frère ont été embarqués ensemble pour Kaunas en Lituanie. Nul ne sait le sort qui leur fut réservé. La famille Jacob est démantelée à jamais. Pour Simone, sa mère, sa sœur Milou, l'enfer prit les noms suivants. Hôtel Excelsior, Drancy, Auschwitz-Birkenau, Probeck, Gleiwitz, Dora, Bergen-Belsen. La lutte pour la survie, un quotidien effroyable, tout ce qui ne peut pas se traduire avec des mots. C'est au mois d'avril 1944 qu'avec ma mère et ma sœur, nous avons été déportés à Auschwitz. Après avoir passé une semaine à Drancy où tous les Juifs de France étaient regroupés, nous avons été entassés pendant 3 jours terribles dans des wagons à bestiaux plombés, pratiquement sans nourriture, sans eau et sans rien savoir de notre destination. Nous sommes arrivés à Auschwitz en pleine nuit. Tout était fait pour nous terrifier. Les projecteurs aveuglants, les aboiements des chiens des SS, les déportés en tenue de bagnard qui nous tiraient hors des wagons. Le docteur Mengele, SS maître de la sélection, désignait alors, par un simple geste, ceux qui entreraient dans le camp et ceux qui, se posés et fatigués, étaient dirigés vers les camions prévus pour les conduire directement vers les chambres à gaz. Par miracle, nous sommes toutes les trois entrées dans le camp où nous avons été affectés à des travaux de terrassement, le plus souvent totalement inutiles. Nous travaillions plus de 12 heures par jour et étions à peine nourris. Notre sort n'a pas été le pire. Au mois d'avril et mai 1944, 435 000 Juifs sont arrivés de Hongrie. Pour faciliter leur extermination, on avait prolongé la voie ferrée à l'intérieur du camp, au plus près des chambres à gaz. Dès leur descente, des wagons, la plupart y ont été conduits. Pour nous qui les voyions et savions ce qui les attendait, c'était une vision d'horreur. J'ai encore en mémoire ces visages, ces femmes portant leurs jeunes enfants, ces foules ignorantes de leur destin qui marchaient vers les chambres à gaz. J'étais dans un bloc tout proche de la rampe où arrivaient les trains. C'est ce que j'ai vu de pire. Nous qui pensions ne plus avoir de larmes, nous avons pleuré. Je pense encore souvent à eux. Simone Veil nous rappelle dans son livre « Une vie » qu'un autre témoin de la Shoah, Aaron Appelfeld, explique pourquoi ceux qui ont été victimes de la Shoah ne s'en sortent jamais. Appelfeld énonce les raisons pour lesquelles on ne peut plus s'en détacher. Elles sont terribles et marquent la différence de nature avec la situation des résistants. Eux sont dans la position des héros. Leur combat les couvre d'une gloire qu'accroît encore l'emprisonnement dont ils l'ont payé. Ils avaient choisi leur destin, mais nous. Nous n'avions rien choisi. Nous n'étions que des victimes honteuses, des animaux tatoués. Il nous faut donc vivre avec ça et que les autres acceptent. Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmer sur l'Holocauste n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris, non. Rien ne peut ni ne doit être oublié. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. Simone Veil vient d'accepter de préfacer un livre qui paraît en ce moment aux éditions du Cerf, Irena Adamovic, une juste des nations en Pologne. De Larissa Quin, qui elle aussi à l'âge de 8 ans a été enfermée dans le ghetto de Varsovie. Simone Veil, dans sa préface, salue l'engagement politique d'Irena Adamovic, notamment aux côtés de Joseph Kaplan, écrit-elle, un des leaders qui préparèrent l'insurrection du ghetto de Varsovie. Irena lui servait d'agent de liaison pour rassembler les forces et fédérer les mouvements de résistance au sein des différents ghettos de Pologne, mais aussi pour faciliter les contacts entre l'organisation juive de combat et la résistance polonaise dont elle faisait partie. Engagement humanitaire aussi, puisqu'elle avait pour mission de visiter les orphelinats et qu'à ce titre, elle put obtenir les autorisations nécessaires pour entrer dans le ghetto de Varsovie. Engagement moral enfin, car jamais elle ne ménagea ses forces pour accueillir et aider ceux qui à l'époque étaient considérés comme la lie de la terre, pour reprendre l'expression d'Arthur Koestler. De tels destins méritent d'être racontés aux jeunes générations, car ils fournissent l'exemple d'engagement spontané, inattendu, aucunement obligatoire, et pourtant réalisé avec une ferveur et une simplicité admirables. Irina Adamovic appartenait à un mouvement, un réseau, mais sa volonté et sa ténacité lui ont permis de se faire accepter par les réseaux de résistants juives qui ont pu lui confier des missions délicates, qu'elle seule, polonaise, catholique, au-delà de tout soupçon, pouvait exécuter. Que des femmes, en un temps où la barbarie était presque la règle, en un temps où l'héroïsme aurait dû voir se lever tant d'hommes qui sont pourtant restés impassibles, aient eu le courage de défier les autorités afin de venir en aide à ceux qui, dans toute l'Europe, étaient pourchassés, déportés, exterminés. Voilà une leçon que nous devons retenir du récit de la vie d'Irina Adamovic. Voilà aussi une leçon pour les générations à venir. Irina Adamovic fait partie de ces consciences isolées qui ne faiblirent pas alors que l'Europe sombrait dans le chaos et le déshonneur. Elle mérite une place dans le panthéon de l'humanité. Merci donc à Larissa Quint de l'avoir tirée de l'oubli. Dans cette émission consacrée à Simone Veil, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Canal Académie Larissa Quint. Larissa Quint, bonjour.
Bonjour.
Larissa Quint, vous avez eu l'occasion de faire préfacer votre dernier ouvrage intitulé « Irina Adamovic, une juive des nations en Pologne » par Simone Veil. Un ouvrage paru aux éditions du Cerf. Larissa Quint, vous êtes vous-même née en Pologne.
Oui.
Vous avez la nationalité polonaise?
Non, j'ai la nationalité française.
Vous êtes de nationalité française, née en Pologne, de parents polonais?
Oui.
Vous avez été enfermée dans le ghetto de Varsovie. Vous avez survécu à la guerre. Vous avez ensuite pu émigrer en France. C'était en l'année 1946.
J'ai perdu mes parents pendant la guerre. Donc en 1946, j'ai pu venir en France et donc vivre une autre vie. Et j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre le français, de connaître la littérature française. Et ça a été une bénédiction pour moi et je n'ai plus quitté la France. Et dès la fin de la guerre, en 1945, en Pologne ça s'est terminé en janvier 1945, j'ai commencé un journal, j'avais 12 ans à l'époque, j'ai commencé un journal que j'ai continué toute ma vie d'ailleurs. Et ce journal, j'ai relaté donc la guerre, tout ce qui m'est arrivé, et je m'en suis servi ensuite pour écrire mes livres.
Et donc le dernier né, Irina Adamovic, une juive des nations en Pologne, paru aux éditions du Cerf, dans la collection L'Histoire à vif, un livre préfacé par Simone Veil. Alors, Larissa Quint, pourquoi le sort, la vie d'Irina Adamovic vous a-t-il interpellée? Pourquoi cette juive des nations en Pologne?
Irina appartenait à un mouvement scout sioniste, le mouvement du HMR Tzahir, elle en faisait partie, elle faisait partie des deux mouvements, catholique et scout sioniste. C'est extraordinaire et c'est vraiment probablement unique. Donc, elle en faisait partie. Donc, pendant la guerre, ses amis ont été enfermés, ses amis étaient persécutés. Eh bien, elle tenait à les aider. Donc, d'une part, par les informations, transportant des tracts, quelquefois des armes, et pas seulement dans le ghetto de Varsovie. Elle a circulé dans toute la Pologne. Elle a été à Vilno, elle a été à Białystok, à Kowno, à Sialoj. Elle était agent de liaison de son mouvement HMR Tzahir de Varsovie, dans ces ghettos où les gens étaient isolés, persécutés, affamés. Elle apportait en quelque sorte un espoir de contact, qu'ils n'étaient pas isolés. Vous savez, les ghettos étaient comme des îles dans un océan. Il y a des ghettos où on n'avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de poste. Alors, elle arrivait là, c'était comme si elle arrivait d'une autre planète. Et quelquefois, on était très surpris de voir une scout catholique qui arrivait parmi eux. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle avait appris le yiddish. Elle parlait le yiddish, si bien que ça lui a permis d'être acceptée, de communiquer. Et elle avait un courage pour transporter des documents entre les ghettos dans des trains. C'était très difficile. Il y avait dans l'espace polonais, et puis ensuite toute l'Europe conquise par les Allemands en 1941, eh bien, il y avait des gendarmes polonais, il y avait des gendarmes allemands, il y avait la SS, il y avait la Wehrmacht. On était contrôlés à tout bout de champ. Et c'est terrible, les traitements qu'on imposait aux gens. Ce qui avait été terrible aussi, c'est qu'on les torturait avant de les tuer. C'est ça qui... Et elle a bravé tout ça.
Mais alors, vous dites avoir été vous-même enfermée à l'intérieur de ce ghetto de Varsovie.
Eh bien, nous avons été enfermés dans le ghetto le 20 novembre 1940. Je venais d'avoir 8 ans.
Et vous êtes restée enfermée dans ce ghetto combien de mois ?
2 ans.
2 ans.
J'ai pu m'enfuir du ghetto en décembre 1942. Donc, vous voyez, ça fait 2 ans, grâce à mon oncle Alexandre, qui était dans la résistance polonaise de l'autre côté du mur, du côté aryen, du côté polonais. Je dois dire qu'en écrivant le livre sur Iréna la Juste, je paye aussi une dette à tous ceux qui, pendant la guerre, m'ont sauvée. Parce que lorsque je me suis évadée du ghetto en décembre 1942,
vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans. Et j'ai été cachée d'un endroit à un autre parce que c'était dangereux, parce qu'on m'avait dénoncé, parce qu'on ne voulait plus me garder. Donc, s'il y a des gens qui m'ont sauvée, qui ont bien accepté de cacher une petite fille juive pendant la guerre. Et c'est un peu en hommage à eux que je rends cet hommage à Iréna Adamovitch.
S'il y avait 3 mots, Larissa, pour définir ces 2 ans. 3 mots.
La faim, l'angoisse, l'absence.
Comment est intervenue Simone Veil en ce qui concerne la rédaction de la préface de votre livre, Larissa Quin ?
J'ai le grand honneur de connaître Madame Veil déjà depuis quelques années.
Elle vous a remis une décoration.
Et alors, c'est ça. Quand je devais recevoir l'ordre du mérite, c'est à elle que je me suis adressée parce que je me suis dit, si c'est elle qui me le donne, j'en sortirai encore plus le prix. Je dois dire toute l'admiration que j'ai pour Madame Veil, d'avoir, après ce qu'elle a vécu, d'avoir pu justement le surmonter et de s'être rendue aussi utile à la France et aussi à l'humanité, à l'Europe, et d'être à l'humanité par son exemple, par l'exemple de ce qu'elle a fait.
Larissa Quin, je rappelle le titre de votre ouvrage, Iréna Adamovitch, une juste des nations en Pologne, préfacée donc par Simone Veil aux éditions du Cerf. En sa qualité de présidente de la Fondation de la Shoah, Simone Veil terminera son discours prononcé à New York le 29 janvier 2007 à l'occasion de la Journée internationale de commémoration dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste par les mots suivants. Je forme les vœux les plus ardents pour que cette journée, décidée par les Nations Unies, inspire à tous les dirigeants, à tous les hommes et femmes de par le monde, le respect de l'autre, le rejet de la violence, de l'antisémitisme, du racisme et de la haine. Je souhaite solennellement vous redire que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. C'est sur ces mots également que s'achève le livre « Une vie » de Simone Veil, paru aux éditions Stock.
Pour moi, la seule chose qui existe, c'est qu'au moment de ma mort, ce à quoi je penserai, c'est la déportation et la mort de mes parents, c'est ça.
Communion pour avec eux ou pour les retrouver ?
Parce que non, pas pour les retrouver, parce que c'est ce qui a été le plus marquant, c'est ce qui a détruit notre vie.
Madame Veil, rescapée de la Shoah, vous militez dès votre libération en faveur de l'Europe.
Pour moi, ce qui a toujours été un vœu que j'ai fait très profondément, c'était qu'on se réconcilie avec les Allemands, parce qu'au fond, s'agissant de l'Europe, ce sont ces conflits entre Français et Allemands qui n'ont cessé pendant des siècles même de faire que nous avons connu la guerre de 14. Ensuite, moi, je me souviens très bien, mes parents se disputaient toujours à ce sujet parce que ma mère trouvait qu'on aurait dû chercher, après la guerre, un accord avec les Allemands et que mon père disait on ne peut rien en faire. Il avait été prisonnier, il faut dire, pendant toute la guerre de 14 et qu'il était férocement anti-allemand. Et moi, je dois dire que même au moment où je suis rentrée de déportation, eh bien, un de mes plus grands souhaits, c'était justement que les Allemands aient un régime démocratique, que tout ce qui avait été fait par les nazis, tout ça, soit répudié complètement et qu'on puisse effectivement créer l'Europe. J'ai toujours été une Européenne convaincue dès le départ. Je me suis mariée très, très vite après mon retour de déportation et mon mari avait tout à fait les mêmes idées. Nous avons toujours été vraiment des militants de l'Europe, d'ailleurs à tel point que nous avons même accepté de vivre, pu vivre en zone américaine d'ailleurs, puisque c'était encore l'occupation. Mais nous avons vécu en Allemagne, à Wiesbaden. Et nos enfants étaient à l'école, il y en avait deux à l'époque, et ils allaient à l'école allemande et apprenaient et parlaient comme des petits Allemands. Ils ont tout oublié, naturellement, mais enfin, c'est pour dire que c'était pour nous la seule solution pour l'avenir. Que sans ça, on repartait dans des conflits indéfinis. Je dis ça à propos de l'Europe, qui est maintenant tout de même, après la chute du mur de Berlin, qui a été quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'en ai un souvenir très précis, parce que la veille de la chute du mur, j'étais pour une réunion européenne à Barcelone. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient venus du Parlement européen, et en même temps, on avait invité un certain nombre de gens d'Afrique, parce qu'à ce moment-là, les Africains étaient très associés à ce qui se passait en Europe. Et on est venu nous apporter un papier en disant « Demain, le mur tombe ». Et quand on a pris ce papier et qu'on l'a lu, ça a été tout à fait extraordinaire, parce que tous les Européens qui étaient là ont poussé des cris de joie. Enfin, c'était une sorte de folie. Et qu'au contraire, mais à la seconde même, les Africains ont compris qu'au fond, on se tournerait vers une Europe qui était encore très pauvre et très malheureuse, et qu'on les oublierait. C'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est extraordinaire, parce que moi, je m'en suis souvenue comme ça. Et puis, je suis rentrée le soir même à Paris. Il y avait, je crois, quelques journalistes qui allaient le lendemain, qui avaient prêté un petit avion et qui nous ont invités pour aller à... Bon, donc, on a vu tomber le mur de Berlin. Ça reste des souvenirs tout de même très, très extraordinaires. Et ensuite, je crois que nous avons toujours été des militants importants de l'Europe. Et pour moi, ça constitue une des bases très importantes de mes vœux.
Madame Veil, pour reprendre donc le cours chronologique des événements de votre vie, après ces deux années vécues à Wiesbaden, après la naissance donc de vos trois enfants, votre retour en France, vous devenez magistrat et vous êtes affecté donc à la direction de l'administration pénitentiaire.
À l'époque, à l'administration pénitentiaire, il y avait un certain nombre de gens qui avaient justement été soit déportés, soit simplement prisonniers de guerre, et qui, de ce fait, s'intéressaient à ce qui se passait dans les prisons. Je voulais expliquer ça pour dire que ce qui a marqué dès le départ ma vie, c'est justement d'avoir essayé de faire les choses pour ceux auxquels on ne pense pas. En même temps, nous avions un sous-directeur qui était quelqu'un de tout à fait remarquable et on essayait de faire le maximum avec le peu que nous avions, d'essayer d'humaniser les prisons. Mais j'ai des souvenirs horribles. Alors, quelques années après, quand nous prenions des vacances avec les enfants qui étaient encore petits, on était en voiture souvent. Et je me souviens très bien que la prison de Nîmes était une prison épouvantable. Très grande prison qui était pour les longues peines. Et la situation était absolument dramatique. Et pendant ce temps-là, les enfants et mon mari m'attendaient. On allait en Espagne et on profitait de ça. L'administration pénitentiaire n'avait même pas d'argent pour qu'on puisse aller visiter les prisons, alors que c'était nous qui en avions la charge. Alors, je crois qu'en même temps, tous ceux qui étaient à l'administration pénitentiaire avaient eu plus ou moins un contact avec ce qu'était l'administration ou la déportation. Et de ce fait, on essayait vraiment de faire le maximum.
C'était au niveau de l'ordre du matériel, ce qui vous révoltait le plus, ce que vous souhaitiez changer le plus, ou au niveau de l'accompagnement humain?
C'était vraiment déjà les établissements eux-mêmes qui était épouvantable.
Et la solution serait où ?
La solution, c'est déjà d'avoir des établissements qui sont convenables, avec des possibilités de tenir compte de la situation des gens. De certains, si on les laisse tout seuls, ils risquent de suicider. D'autres, au contraire, ne supportent pas. Donc, avoir une présence beaucoup plus importante. Je dois dire qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait eu un très grand effort, parce que nous étions assez nombreux à avoir connu ce qu'était la détention, ce qu'était d'être dans des situations dramatique, encore beaucoup plus dramatique, mais ça nous avait incité aussi à ne pas laisser se faire un certain nombre de problèmes.
Et aujourd'hui se pose beaucoup la question de la réinsertion, préparer une réinsertion correcte, parce que cette détention, c'est une vie qui est mise entre parenthèses.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. En tout cas, en cette période, malgré le fait que nous ayons peu d'argent, on a tout de même, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été mises en place. Mais que le nombre des détenus ayant beaucoup augmenté, ça a été de plus en plus difficile de pouvoir prendre en charge et de réaliser ce que nous avions à l'époque souhaité et qui était très fort chez la plupart d'entre nous. Alors je pense que maintenant, il faut, je pense, essayer de trouver un moyen pour que les détenus ne sortent pas des prisons pire que quand ils étaient entrés.
Donc, une période très intense et un investissement personnel, professionnel de votre part, que votre famille, je crois, a vécu un peu difficilement.
Oui, j'en parlais pas beaucoup, ça les énervait un peu, puis ça, si on s'arrêtait comme ça pendant les vacances et autres. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'en suis tellement occupée que ça lassait, et je comprends ça d'ailleurs, ma famille, et notamment d'ailleurs, je suis allée en Algérie, où il y avait énormément de gens qui étaient détenus, parce que c'était la guerre entre ceux qui voulaient qu'on reste en Algérie et ceux qui cherchaient à nous en chasser. À ce moment-là, j'ai visité énormément de prisons, pratiquement toutes les prisons qu'il y avait en Algérie, et je suis rentrée épouvantée par les conditions dans lesquelles les détenus étaient gardés. Je crois que ça m'a beaucoup marquée. Et d'ailleurs, je dirais que quand j'ai été en Algérie d'une façon générale, j'ai été très frappée par une situation qu'on essayait de sauvegarder. Et je crois que quand le général de Gaulle a dit « Français, je vous ai compris » à propos de l'Algérie, ça a été un peu une équivoque. Moi, je savais par un ami qu'il connaissait bien qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'était arriver à mettre un terme à ce conflit qui était un conflit dramatique. Mais les gens en discutaient. Chacun avait voulu comprendre comme il le souhaitait. Et pour ma part, pour y avoir été souvent, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et j'ai un souvenir comme ça d'avoir pratiquement visité toutes les prisons. Certaines étaient vivables, mais dans d'autres, bon, c'était la guerre. J'ai souvenir à Philippeville d'un directeur de prison. Je regardais comment les détenus étaient traités. Et il m'a dit « Oh, ne vous inquiétez pas, la guillotine est toujours prête. Si vous voulez que je vous la montre, c'est possible. » Voilà un peu quel était, dans certains cas, le climat qu'il pouvait y avoir, notamment dans les prisons. J'étais très inquiète de la situation d'un certain nombre de détenus et j'avais très peur qu'un jour on aille dans les prisons, qu'on les vide et qu'on tue un certain nombre de gens. C'était d'ailleurs réciproque. La situation était des deux côtés très, très mauvaise. Mais dans cette période où le général de Gaulle avait parlé d'évolution, on avait suspendu toutes les peines de mort. Heureusement, il y en avait énormément. On a en fait fait partir tous ces détenus. Enfin, j'ai insisté, parce que je pensais qu'ils craignaient beaucoup d'être assassinés. On les a ramenés en France. Mais quand on parle de ces horreurs, il faut bien dire que des deux côtés, on ne savait plus où on en était. Mais sûrement, dans l'idée du général de Gaulle, il y avait tout de suite eu l'idée qu'il fallait aller vers la paix, mais qu'il fallait prendre le temps.
Et vous expliquez dans votre livre « Une vie » paru chez Stock, et aussi en parution en édition de poche, Comment s'est faite votre entrée dans la vie politique française après avoir été magistrat dans le domaine carcéral, cela pendant 7 ans? Vous écrivez, page 171 de votre ouvrage, fin mars 1974, visitant le Népal en coup de vent avec Jacqueline Auriol, ayant toujours au cœur la nostalgie de la pénitentiaire, comment aurais-je pu imaginer que moins de 2 mois plus tard, je serais membre du gouvernement Chirac formé après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Chacun savait que l'état de santé du président Pompidou laissait à désirer. Mon mari et moi avions apporté sans hésitation notre soutien au père de la nouvelle société, Jacques Chaban-Delmas. Parmi les 3 concurrents en lice, il nous apparaissait comme le seul authentique réformateur. Mais, déçu de la campagne de Chaban, je n'ai pas été étonné de sa défaite, sans pour autant cerner la personnalité de Giscard, que je n'avais pas eu l'occasion d'approcher. Jusqu'au dernier moment, j'ai donc été tenté de m'abstenir au second tour. Je me revois, me rendant au bureau de vote, accompagné de mon dernier fils. Il était trop jeune pour voter, mais lorsque je lui ai fait part de mon incertitude, il n'a pu retenir sa surprise. Pour quelqu'un qui prétend avoir des idées, je ne te comprends pas. S'il y a bien une chose qu'on ne doit jamais faire dans une élection, c'est de s'abstenir. Choisis celui des 2 qui te convient le mieux, élimine celui qui ne te convient pas du tout, mais vote. L'argument avait le mérite de la simplicité. J'ai donc voté pour Giscard. Par la suite, sur la base de malentendus divers et aussi parce que j'avais une image d'ouverture qui me situait plus à gauche que je ne l'étais dans la réalité de mes choix. Beaucoup de gens ont cru pouvoir affirmer que j'avais voté Mitterrand. J'ai bel et bien voté pour celui qui fut élu, sans penser un instant que j'allais rejoindre son gouvernement. Pendant sa campagne, le nouveau président avait assuré les Français qu'il appellerait des femmes au gouvernement. L'idée était d'ailleurs dans l'air du temps. Quelques mois plus tôt, à l'occasion des fêtes de fin d'année, un magazine féminin avait publié un retentissant article sur un éventuel gouvernement de femmes. J'en avais été bombardée Premier ministre. L'hypothèse était d'autant plus pittoresque que j'étais inconnue du grand public et que je n'avais jamais exercé le moindre mandat électoral ni assumé de fonction présidentielle. Survint l'élection de Giscard. Dans les jours qui suivirent, une rumeur, étayée cette fois, commença à se répandre, selon laquelle, parmi d'autres femmes plus en vue que je ne l'étais moi-même, le nouvel hôte de l'Élysée songeait à moi. C'était le Premier ministre, paraît-il, qui lui avait suggéré mon nom. J'avais déjà eu l'occasion d'approcher Jacques Chirac. Mon mari le croisait dans les milieux politiques proches du pouvoir. Et qui plus est, j'étais liée avec sa principale conseillère, Marie-France Garraud, magistrat comme moi. Nommée au cabinet du nouveau Premier ministre, je crois que c'est bien Marie-France Garraud qui a prononcé mon nom devant Jacques Chirac, qui, à la demande du nouveau président, cherchait des femmes nouvelles en politique. Un soir, que nous dînions chez des amis, la maîtresse de maison m'invita à sortir de table. Quelqu'un désirait de toute urgence me parler. C'était Jacques Chirac qui me demandait si j'accepterais, le cas échéant, de faire partie de son gouvernement. Il me pria de réfléchir et de le rappeler le lendemain. Le calme dont j'ai su faire preuve jusqu'à la fin de la soirée n'a pas manqué de surprendre mon mari. Pour dire le vrai, je n'avais qu'une très vague idée de ce qui m'attendait. La curiosité aidant, je n'ai guère hésité. C'est ainsi que je me suis retrouvée, dès le lendemain matin, ministre de la Santé. Pourquoi le président m'avait-il confié la santé, secteur administratif dont je n'étais pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, une spécialiste? Pensait-il déjà à l'IVG, thème sur lequel il avait pris des engagements? Sans doute. Quoi qu'il en soit, j'étais la seule femme ministre. Oui, Simone Veil, votre nom reste attaché à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Vous avez présenté ce texte devant l'Assemblée. Grâce à vous, l'IVG est adoptée en France en décembre 1974. Et en votre qualité de ministre de la Santé, cette loi Veil autorise l'avortement en France.
Oui, mais vous savez, à l'époque, on était encore très marqué, et c'est pour ça que la loi est intervenue, sur le fait qu'il y avait chaque année au moins 300 ou 400 femmes qui mouraient parce qu'elles avaient voulu s'avorter elles-mêmes ou qu'elles trouvaient des femmes pour le faire. Et d'autre part, parce que c'était souvent très injuste, parce qu'en fait, on pouvait le faire en Angleterre, on pouvait aller aux Pays-Bas, on pouvait aller en Suisse pour toutes celles qui avaient de l'argent, et on pouvait même trouver un médecin en France pour le faire.
C'est une sorte d'hypocrisie.
Voilà, donc c'était une énorme hypocrisie. Et un certain nombre de femmes mouraient dans des conditions très dramatiques parce qu'elles acceptaient n'importe qui, quelqu'un dans le quartier qui était connu, qui pouvait le faire, mais qui en fait était tout à fait incapable de le faire.
Alors justement, par rapport à cette condition féminine, dans certains articles, vous vous annoncez comme franchement assez déçu, même si la condition des Françaises n'est pas la pire d'Europe, dites-vous, mais des femmes trop peu nombreuses à l'ENA, on n'applique pas la parité, ni dans les prud'hommes, ni dans les conseils d'administration, les rémunérations non plus ne suivent pas. Donc il faudrait peut-être une petite relance à cette condition féminine, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes, c'est d'ailleurs ce qu'elles pensent elles-mêmes en général. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sacrifient soit la maternité, soit parviennent à des solutions. Mais quand on regarde absolument toutes les statistiques sur les fonctions qu'exercent les femmes par rapport aux hommes, il y a encore beaucoup à faire. Je sais bien que c'est le cas dans beaucoup de pays européens encore. Mais là, je trouve qu'il faut qu'il y ait entre les femmes une très grande unité, un désir marqué de vouloir nous aider entre nous. On en a vu ce qui s'est passé lorsque un Premier ministre a renvoyé du jour au lendemain un certain nombre de femmes. Immédiatement, nous avons réagi et nous avons décidé d'avoir un certain nombre de demandes qui ont été plus ou moins acceptées. C'est encore loin et on voit très bien dans les entreprises que les femmes ont toujours plus de difficultés, même si elles travaillent autant, même si elles apportent autant. Il y a des discriminations qui restent importantes. Vous savez, moi, je me souviens très bien, il y a un moment, c'était dans les années 65, quelque chose comme ça, la vie économique demandait plus de travailleurs. Et je me souviens très bien qu'on avait mis en place à l'époque, on m'avait consulté d'ailleurs, comment faire pour que les femmes travaillent davantage. Enfin, s'intéressent davantage au travail et entrent dans la vie
professionnelle
et autres. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir, je l'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, j'avais dit, voilà, quand on a besoin des femmes, on essaye de les appâter, on essaye de les faire venir dans des bonnes conditions, et puis dès que ça va mieux, on les renvoie. Ça, c'était exactement le schéma qui avait été fait. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ces questions à un moment, et ça m'avait d'ailleurs beaucoup intéressée, mais j'avais vraiment été très, très choquée de la façon dont les femmes étaient utilisées. Et après, quand ça a été moins bien, on les a renvoyées comme ça, absolument, sans s'occuper de ce qu'elles devenaient.
Et lorsqu'en période de chômage, vous savez, la formule, ben oui, mais les femmes arrivant sur le marché du travail prennent la place des hommes. Vous avez dû souvent entendre cette formule.
Oui, beaucoup. Alors, je dois dire quand même, aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de femmes travaillent, mais elles cherchent d'ailleurs quelquefois à travailler à temps partiel, ce qui est toujours un peu difficile. Elles ont beaucoup plus de difficultés à trouver l'équivalence de ce qu'ont les hommes. Et il y a surtout, à mon avis, un problème un peu pour les femmes, c'est que les couples vivent beaucoup plus séparés qu'ils n'étaient. Donc, les enfants, quelquefois le père s'occupe aussi des enfants, ou en tout cas l'entretien pour partie, mais ça pose vraiment pour les enfants des situations quelquefois vraiment difficiles. Et ce sont toujours les femmes qui doivent se débrouiller parce que tout de même, dans la mesure où les hommes ne s'en occupent pas, ils ne donnent pas non plus pour l'enfant qu'ils ont eu les moyens nécessaires pour élever les enfants.
C'est une situation auquel le politique doit s'attacher pour trouver structure.
Je ne crois pas que ce soit le politique. Je crois que c'est en fait ce que la société elle-même génère et la façon, les articles qu'on lit là-dessus. Je suis quelquefois très, très frappée par le désintérêt que peuvent avoir certains parents. Quelquefois, c'est la mère, d'ailleurs. C'est beaucoup plus rare. Mais sans ça, les pères, quand ils se... D'abord, beaucoup de couples ne se marient pas. Et quand ils sont avec une autre femme, eh bien, et qu'ils ont d'autres enfants, les enfants, pratiquement, sont privés de père. Quelquefois, c'est la mère. Mais enfin, la vie est devenue beaucoup plus compliquée sur ce plan-là. Et en même temps, on constate que c'est en France qui a le plus d'enfants aujourd'hui. Je crois que plus qu'en Irlande, ce qui est tout de même extraordinaire. Et moi, je dois dire que très vite, au moment où il y a eu la loi sur l'IVG que j'ai soutenue et que j'avais présentée, le président de la République de l'époque m'avait dit « il faut faire maintenant quelque chose pour la famille ». Et j'étais tout à fait de son avis. Et c'était juste quand les décisions étaient prises, au moment où la loi était discutée, j'ai demandé un jour, c'était la veille de Noël, je demande à tous les gens, je demande à l'huissier qui était là dans le truc, tous mes, les gens de mon cabinet, etc. Et je demande à tous, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Et bien tous, ils étaient en famille. C'est-à-dire que le 1er janvier, c'était la fête, bon, mais l'autre, c'était la fête religieuse ou pas, mais c'était Noël, on le fêtait en famille. Et donc, je n'ai pas été du tout étonnée quand on montre qu'aujourd'hui encore, la famille française, même si elle n'est pas mariée, en définitive, elle se tient tout de même très bien et qu'elle reste quelque chose de très, très important.
Ce sens de la famille, vous l'avez toujours eu, malgré les épreuves de vos premières années ?
Oui, c'était, je dirais qu'au contraire, d'avoir une famille, c'était ce qui vous permettait de survivre. Nous nous sommes mariés très très jeunes, mon mari et moi. Nous faisions tous les deux nos études. Nous sommes connus dans la première année où nous étions à la fois à Sciences Po et dans le droit. J'avais la chance d'avoir des oncles et tantes qui m'avaient accueillis autour des déportations. On était tous les deux étudiants et on a eu des enfants très jeunes. Très jeunes et aujourd'hui, c'est une joie parce qu'on a beaucoup de petits-enfants. On a même un certain nombre d'arrière-petits-enfants. Il y en a un qui est en route, un de plus. D'abord, tout le monde s'entend très, très bien et puis que c'est tout de même la joie de vivre d'avoir des enfants. Je suis pas de voir que la France, justement, aujourd'hui, est tellement le sens de la famille et qu'on fasse beaucoup de choses. Quelquefois, on pousse un petit peu, même on trouve qu'en France, on en fait trop, que ça coûte très cher, etc. Ça, c'est pas les Français, en général, qui pensent ça. Je crois qu'il y a là une marque importante de la bonne santé de notre pays sur beaucoup de points. On se critique beaucoup, mais qu'en définitive, quand on va chez les autres, c'est souvent moins bien. Enfin, je trouve que cette volonté qu'on a eue au retour des déportations, de penser qu'il fallait se réconcilier avec les Allemands, je trouve aussi que cette place donnée à la famille est très importante, même si les gens ne sont pas mariés. Je trouve qu'il y a un équilibre de vie. Ce qui me soucie le plus, c'est qu'il y ait des gens qui, encore, dans les banlieues difficiles, des situations...
Vous avez eu ce contact avec le terrain des banlieues, vous en parlez, Marseille, je crois.
Oui, j'ai été à Marseille.
Et puis, vous parlez de la Guadeloupe aussi.
Le maire de Marseille me disait, oh, écoutez, il y a des mouvements quand même, n'y allez pas. J'ai eu ça d'ailleurs aussi à la Guadeloupe. Et il me dit, n'y allez pas, vous risquez d'eux, etc. J'ai dit, si, je suis venue. Mais les gens m'ont invité chez eux, enfin, etc. Je crois qu'il y a des regards différents, mais j'étais à plusieurs reprises comme ça, où la police a toujours un peu peur, vous allez être bousculé, et les choses se passent bien.
Et donc, vous l'expliquez comment ? Quand on vient avec un esprit d'ouverture, un esprit de communication, les choses se passent et... Je veux dire, même dans les quartiers les plus difficiles ou les quartiers chauds.
Oui, j'ai été beaucoup dans les quartiers de banlieue plus récemment. Alors effectivement, les écarts de situation sont tellement grands. Et puis, de très grandes difficultés pour des jeunes qui, aujourd'hui, c'est là où les choses ont changé. C'est que nous avions beaucoup moins qu'aujourd'hui le fait des difficultés pour les jeunes de trouver des situations. Ça, c'est une... Et puis, ils ne sont pas toujours bien préparés et ils n'ont pas toujours non plus la possibilité donc, de trouver un job. Les familles sont en difficulté. C'est là où on voit que quand la situation économique est meilleure, les choses sont plus faciles à gérer.
Alors, Madame Veil, quel est le sens de cette vie à travers toutes ces épreuves, à travers...
Le sens de la vie, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est... mis en place de lui-même, parce que je me suis trouvée dans des situations, je trouve que, bon, je suis rentrée, j'ai fait du droit, ce qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu des fonctions qui étaient des fonctions que je n'ai pas tellement cherchées, mais qui correspondaient tout à fait à ce que je souhaitais. Par exemple, lorsque j'ai été magistrat à l'administration pénitentiaire, à une époque où on pouvait encore faire beaucoup de choses pour les détenus. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler à la direction des affaires civiles, toujours au ministère de la Justice, et de participer à la réforme du Code civil, à un moment où vraiment ça a été très important, au Carbonnier, qui était un extraordinaire professeur et inventeur, travailler pour Jean Foyer pour rénover complètement le Code civil. Il faut dire que jusque-là, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque et que vraiment, elles avaient un statut dérisoire. Alors là, c'est lui qui s'en est beaucoup occupé. Il n'y a qu'une chose dont il n'a pas voulu s'occuper parce qu'il était contre, c'était l'adoption. Donc c'est moi qui ai fait, à l'époque, qui ai rédigé la loi sur l'adoption. Mais c'était donc un travail tout à fait passionnant et qui m'a amené en fait à être un peu, comme j'allais pas mal au Parlement pour être à côté du ministre, à connaître un certain nombre de personnalités, notamment Jacques Chirac, également tous ceux qui étaient là et qui certains m'ont remarqué. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le gouvernement. Voilà. Alors, à la fois Jacques Chirac et aussi, d'ailleurs, le président de la République de l'époque.
Alors, vous disiez avoir fait du droit et avoir voulu participer à la société de cette façon-là pour défendre, pour apporter une aide. Ça a été une sorte de réaction à l'épreuve vécue, à l'épreuve passée, vouloir aider l'autre.
C'est difficile à dire. J'ai toujours envie de faire des choses concrètes, de dire il y a des situations dans lesquels on peut faire des choses. Et d'ailleurs, je dois dire que les gens, j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient tout à fait dans cet état d'esprit et que c'était toujours l'envie de se dire il faut améliorer les situations. Il faut dire que c'était au ministère de la Justice, un ministère qui n'était pas des plus avancés. Et avec à la fois des gens tout à fait remarquables. Je pense à quelqu'un qui est connu dans les milieux juridiques, qui s'appelle Massip, et qui était vraiment très exceptionnel. Il y en avait un certain nombre, mais sans ça, il y avait aussi une absence de volonté de faire avancer les choses et autres. Il y avait tout un parti très traditionnel. Il y avait les deux, parce qu'il y avait à la fois le syndicat qui essayait d'aller très loin, et en même temps des magistrats qui étaient toujours sur une certaine ligne assez rétrograde. Mais j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai pu travailler avec des gens de grande qualité. Et le fait aussi d'avoir été conseiller technique au cabinet de René Pleven, qui était quelqu'un de très remarquable, et ensuite d'être choisi pour être ministre, c'était évidemment ces relations que j'avais eues à l'époque, notamment avec Giscard ou avec Chirac.
Cette année 2009, nous fêtons l'année de naissance de votre homonyme, Simone Veil, avec un W. Elle aussi s'est engagée dans le combat politique à sa façon, avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, de folle passion, dirons-nous, et repoussant, évidemment, tout ce qui était du domaine de la compromission, mais refusant jusqu'en compromis. Est-ce qu'en matière de politique, le compromis n'est-il pas incontournable, ce compromis ? En matière politique ?
Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit incontournable. Je crois qu'il y a des choses où dépend. Les lignes sont différentes. Si vous êtes dans un parti politique, très ancré dans ce parti, vous ne pouvez pas le désavouer ou bien alors vous partez. Je dois dire que j'ai eu une situation qui a été une situation mouvante. Elle a été une situation mouvante parce qu'on m'a demandé d'avoir une liste pour le Parlement européen. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai une liste qui a fait un très grand score à l'encontre d'une autre qui, à l'époque, d'ailleurs, c'était expliqué hier à la télévision par le film sur Jacques Chirac, à l'époque où il était absolument contre tout ce qui pouvait être européen. Et il est arrivé comme ça au Parlement européen. Alors que moi, je suis arrivée, au contraire, avec vraiment l'idée du Parlement. Enfin, c'était une volonté. J'étais très contente quand on m'a demandé de tenir la liste, qui a eu beaucoup de succès. Et de ce fait, d'ailleurs, de devenir présidente du Parlement européen, du premier Parlement européen, puisqu'auparavant, c'était des parlementaires désignés qui étaient en même temps au Parlement européen et dans leur propre Parlement.
Vous dites tirer votre force, votre énergie, justement, de la force de caractère de cette mère qui était extrêmement courageuse. Qu'est-ce que votre mère a eu le temps de vous transmettre pour votre développement personnel, pour votre mise en route d'être profond?
Quand j'étais petite, il y avait toutes les amies de maman qui disaient « Oh, tu la gâtes trop », etc. Bon, j'ai entendu ça comme ça.
Petite dernière.
La petite dernière. Et bon, c'était la petite dernière. Et probablement, oui, que j'étais capricieuse, que j'étais...
Et... Elle était très proche de vous?
Oui, oui, très proche. C'est vrai qu'elle me gâtait. Par exemple, toute la famille faisait du ski. Moi, je n'aimais pas ça, j'avais froid. On me laissait comme ça, et ça. Alors, j'aimais beaucoup mieux rester avec maman, l'avoir pour moi toute seule. Ça, c'était le rêve.
Et sa force, son énergie, vous la ressentez? Parce que c'était une femme de caractère.
Non, ce n'était pas une femme de caractère. C'était une femme de bonté. Ce n'est pas du tout pareil. Même au camp. Moi, je vois, elle était une des rares au camp, de cet âge-là. La plupart de mes amis, leur mère n'était pas entrée au camp. Toutes, elles l'ont admirée, par sa bonté, par...
Son courage.
Son courage, son courage.
Et ça, c'est éclairant pour une vie d'adulte qui commence.
Ah oui, ah oui. Bon, alors je m'étais consolée avec ma... Enfin, ma sœur jouait un peu ce rôle-là, après, toujours. Mais enfin, maman était... Toutes mes amies en conservent un souvenir formidable.
Donc, vous retrouvez ainsi à l'Académie française, sous la coupole, quel sentiment, quelle réaction suscite au fond de vous cette récente élection?
Je dois dire que c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé.
Et qu'est-ce que vous en attendez de cette vie académique?
Je ne sais pas, je n'ai pas encore assisté.
Voilà, exactement.
Voilà. Je ne sais pas encore comment ça se
participer
passe.
Participer à des sessions de travail,
Tout le monde me dit que c'est passionnant, je le crois d'ailleurs. Les gens sont très différents. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est Hélène Carrère d'Ancos qui m'en a parlé la première, et avec beaucoup de gentillesse. Je lui avais dit, par exemple, j'ai dit, vous savez, moi, je ne ferai pas de visite.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, si on veut, on veut, si on ne veut pas, on ne veut pas. Bon, elle savait que je ne ferai pas de visite. En plus, l'académie, enfin le sentiment que j'en ai de l'extérieur, c'est qu'elle a des gens tout de même très, très différents politiquement, et, ou en tout cas comme pensée, comme etc. Et que chacun, ça s'enrichit les uns les
formidable.
Autres.
Formidable. Il y a un espace de liberté individuelle, mais une mise en commun de toutes les connaissances.
Ça, c'est très intéressant. Moi, je dis ça parce qu'en réalité, j'ai eu une carrière qui a été une carrière politique, mais au fond, dans lequel j'ai été très peu politisée. J'ai très peu appartenu à des partis politiques.
La rebelle encore.
Ah ben, je veux être libre. Je ne veux pas qu'un parti vienne me dire, moi je dis non, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça, et de soutenir ça.
Et justement, le savoir-faire, votre savoir-faire, le savoir-faire des académiciens ici, etc., je crois qu'il y a une revisitation de cette matière grise de la personne d'expérience qui était, ces dernières décennies, repoussée parce qu'on était dans un jeunisme. Et on retrouve cette ouverture et cette communication avec ceux qui savent, ceux qui ont su, ceux qui ont fait une carrière et qui sont là pour aider les générations émergentes dans le
milieu du
travail.
Oui, parce qu'il y a eu quelques personnalités de gens qui ont vraiment joué un rôle important pour ça, auprès des politiques.
Parce que c'est très important de transmettre aux générations futures votre expérience. Et vous êtes comme des phares, des modèles pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas encore vécu, qui ne sont pas passés par
les épreuves. Plus pour les femmes.
Vous voulez dire que les femmes ont beaucoup besoin de modèles,
de repères. Oui, mais en même temps, moi je vois celles qui m'écrivent, il y a beaucoup plus de femmes qui m'écrivent. Mais parce que je suis... oui, c'est vrai que je suis très féministe.
Vous garderez toujours cette fibre féministe.
Oui.
Une fibre de rebelle.
Non, oui, de rebelles, absolument, et puis de compréhension. Moi, je veux dire, je vais conclure là-dessus, si vous voulez bien.
Je vous en prie.
C'est dire que il y a des femmes. Bon, il y a eu des femmes pour dire les hommes et les femmes, c'est pareil. Je suis absolument contre cette idée. Absolument contre cette idée. Et je dis au contraire que si je me bats pour qu'il y ait plus de femmes, c'est parce que je pense non pas que c'est mieux, que c'est autrement. Et donc, la société qui est faite pour qu'il y ait des hommes et des femmes, il faut qu'il y ait les deux. Et ça, moi, ça me frappe énormément. Énormément.
Égalité des droits, c'est ce qui est revendiqué, pour que le même travail soit rémunéré de la même façon.
C'est ça, mais qu'il y ait un certain nombre de femmes.
Donc, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, mais tout à fait complémentaire. Et
complémentaire, voilà, complémentaire. Je dis, bon, on a chacun
des spécificités. Mais à conjuguer.
Et ça enrichit la société.
C'est ainsi que s'achève cette série de 4 émissions consacrées à Simone Veil. 4 émissions que vous pourrez dorénavant télécharger sur le site de Canal Académie.